Et voici le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Des milliers de personnes ont marché contre l'antisémitisme hier à Paris en mémoire de l'octogénaire juive Mireille Knoll, tuée vendredi dernier. De nombreux politiques présents, dont l'insoumis Jean-Luc Mélenchon et la frontiste Marine Le Pen, tous deux finalement hués et contraints de partir hier soir. Leur présence n'était pas souhaitée par le CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, au nom du rejet des extrêmes.
Des peines allant d'une simple amende de 1000 euros avec sursis à 6 mois ferme ont été requises hier au procès des 8 membres de la communauté libertaire de Tarnac.
À la une également, Facebook qui promet encore une fois de faire mieux pour protéger les données privées et puis focus sur ces diplomates russes que la France veut expulser ensuite en réaction à l'affaire Skripal du nom de cet agent empoisonné sur le sol britannique. Qu'attendent les dirigeants et les salariés de l'intelligence artificielle? Risque-t-elle de bouleverser les métiers et de siphonner les emplois? Ce sera l'objet du billet économique de Jean-Marc Chardon à la fin de ce journal.
Et puis dans une quinzaine de minutes, Catherine, un paradoxe. Les Français n'ont jamais mangé autant de poulet et pourtant la filière avicole française est en crise. Pourquoi? On posera la question à Vincent Châtelier qui est économiste à l'INRA.
Ce devait être un moment de recueillement, mais la marche blanche en mémoire de Mireille Knoll, cette femme juive de 85 ans tuée la semaine dernière dans son appartement parisien, a finalement été émaillée d'incidents. Parmi les milliers de participants hier soir dans les rues de Paris, Francis Khalifa, le président du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, il avait affirmé que ni Marine Le Pen ni Jean-Luc Mélenchon n'étaient les bienvenus à cette marche blanche. De son côté, Daniel Knoll, l'un des fils de la victime, avait eu des mots très dignes pour couper court à toute polémique. Appelle tout le monde à participer à la marche. Le CRIF fait de la politique et moi, j'ouvre mon cœur, a-t-il déclaré hier. Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon étaient donc bien présents hier soir à cette marche blanche, mais tous deux ont dû rapidement quitter le cortège sous les huées et les insultes, Boris Loumagne.
La marche blanche devait symboliser l'unité du pays. Un message prôné par Jean-Pierre, athée et philosémite, dit-il.
Je suis humaniste, je me sens très concerné pour venir dire et crier que nous ne sommes pas d'accord, que des gens essayent de rompre le lien entre les communautés qui forment le pays.
Message identique pour José, un juif parisien, comme il se définit en souriant.
C'est avant tout un rassemblement autour d'une dame lâchement assassiné, au-delà de toutes les confessions, au-delà de toutes les catégories socio-professionnelles. Je crois que c'est une marche blanche qui a trouvé une très grande adhésion.
Mais l'unité vole en éclats lorsque Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon font leur apparition.
Vous n'avez rien à faire ici, salopards !
Les deux leaders de l'opposition sont chahutés par certains manifestants avant d'être exfiltrés par leurs services d'ordre, sous les yeux de l'historien Serge Klarsfeld qui comprend cette expulsion violente.
L'extrême droite dont le noyau est antisémite, et puis l'extrême gauche qui est anti-israélienne et qui répand depuis longtemps des slogans anti-israéliens qui déguisent un certain antisémitisme, bon, il est normal que cette manifestation de braves gens n'accepte pas la venue de ses dirigeants.
Un avis contredit par Alain, 72 ans, étoile jaune en main.
Si Mélenchon il veut venir, il vient. C'est un moment de recueillement. Moi, je veux dire, au nom de ma famille, ils sont morts en déportation. Moi, je considère que s'il veut venir, on le laisse dans son coin, il va dans la manif dans le coin et on le laisse tranquillement dans son coin.
Après ces quelques incidents, le cortège a pu rallier dans le recueillement l'immeuble de Mireille Knoll.
Et à Jérusalem, des dizaines de membres de la communauté francophone d'Israël ont allumé sur la place de Paris des bougies à la mémoire de Mireille Knoll. Ils ont également entonné hier soir les hymnes israéliens et français. La France perçue par beaucoup comme dangereuse pour la communauté juive. Le reportage à Tel Aviv de Marie Semelin.
Dans le salon de coiffure de Viviane Elbaz, l'assassinat de Mireille Knoll est sur toutes les lèvres.
Ça fait mal.
Même chose à quelques pas de là dans son agence immobilière, il y a Eric Gelsch, carrure de rugbyman et qui pas sur la tête. Il y a 13 ans, il a quitté Nice pour s'installer à Tel Aviv.
Toute ma famille me disait « mais tu es fou, tu vas partir, fais attention ». Aujourd'hui, c'est moi qui leur dis « bon, ça va, vous n'avez pas peur, fais attention quand tu sors ». On sait qu'il y a un antisémitisme latent d'une minorité de Français. On va appeler ça des Français d'ailleurs. Et voilà, il y en a un autre qui va se réveiller demain, qui va faire exactement la même chose.
En Israël, la question ne se pose pas de savoir si la France et l'Europe sont antisémites. La réponse est oui, en tout cas pour Lior. Et pour ce jeune Israélien, la situation va empirer.
Ça a été étouffé après la Seconde Guerre mondiale. Et plus les survivants de l'Holocauste disparaissent, plus ça devient normal de traiter les Juifs de la même manière que pendant la guerre. Quand on visite l'Europe, parfois, on le ressent.
Lior ne pense pas pour autant voir arriver une nouvelle vague d'immigration française en Israël. Beaucoup sont déjà repartis, dit-il, parce qu'ils n'ont pas trouvé de travail ou n'ont pas réussi à apprendre l'hébreu. Son ami ajoute, et les Juifs devraient surtout pouvoir habiter où ils veulent.
7h05, les matins de France Culture, la suite du journal de Catherine Dutu. Au moins une douzaine d'universités sont actuellement bloquées ou occupées partiellement par des étudiants.
Des étudiants mobilisés contre la loi Vidal qui modifie les conditions d'accès à l'enseignement supérieur, mobilisés également contre la répression à l'université. Une protestation qui a pris de l'ampleur après les violences, notamment à la faculté de droit de Montpellier jeudi dernier. Le doyen de la fac et un professeur ont été placés en garde à vue hier. Des blocages partiels ou complets donc des campus en cours, notamment à Montpellier, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Caen, Rouen, Paris, Tolbiac, Nancy. Le campus martiniquais de l'Université des Antilles est également bloqué par des étudiants. Et puis manifestation de soutien hier à Rouen et à Nantes envers les étudiants montpelliérains qui ont été agressés la semaine dernière alors qu'ils occupaient un amphithéâtre. Nous irons à Nantes dans le journal de 7h30 où les étudiants souhaite faire converger les luttes avec les cheminots et les fonctionnaires. De son côté, la CGT appelle les salariés du secteur de l'énergie à un mouvement de grève et de mobilisation à compter du 3 avril prochain et pendant 3 mois. Des baisses de production dans les centrales électriques sont prévues ainsi que des coupures ciblées vers des industriels, notamment ceux qui licencient les salariés ou qui criminalisent l'action syndicale. La CGT Mines Énergie entend ainsi peser sur l'économie du pays alors que les cheminots, les éboueurs, Air France, la fonction publique, les services publics poursuivent leur opposition à l'exécutif. Au procès Tarnac, le réquisitoire hier, le procureur refuse d'envoyer ou de renvoyer les 8 prévenus en prison. Vu le temps écoulé et leur personnalité, la société n'aurait rien à y gagner, estime l'accusation, qui tient pourtant les prévenus pour responsables de la plupart des faits qui leur sont reprochés. Les 8 membres de la communauté libertaire du village de Tarnac en Corrèze sont poursuivis notamment pour association de malfaiteurs et dégradation d'une ligne SNCF. Le procureur a demandé pour certains des amendes avec sursis et jusqu'à 4 ans de prison pour Julien Coupa, mais assorti là encore de sursis. Compte rendu d'audience avec Florence Turm.
10 ans de surenchère médiatique et procédurale, mais ces 3 semaines d'audience auront permis d'écarter un spectre, celui d'une justice expéditive. Les 2 représentants du ministère public se sont partagés la tâche et Nicolas Renucci commence par ce préambule. Cette procédure n'est pas une procédure exemplaire, mais pas non plus une procédure indigne. Il s'agit, poursuit-il, d'en dissiper les fantasmes. Alors les 2 procureurs vont replonger longuement dans les différentes infractions du dossier, dont les premières semblent quelque peu dérisoires 10 années plus tard. Le refus de prélèvement ADN, le recel de cartes d'identité volées, les voyages aux États-Unis, les incidents de la manifestation de Vichy qui fondent, selon l'accusation, l'association de malfaiteurs. Mais le cœur du dossier, c'est bien sûr le sabotage. L'une des plus grandes opérations jamais menées en France contre le réseau Ferré, reprend Olivier Christin. Alors oui, c'est vrai, admet-il, le groupe de Tarnac est une construction policière. Mais en revanche, il n'y a rien qui permette de dire que les policiers ont menti. La présence des prévenus sur les lieux est établie et si leur présence est établie, ils sont évidemment les auteurs des sabotages. L'utilisation de la carte bleue d'Île-d'Une-Lévy à Pigalle à l'heure des faits n'est pas, à son sens, un élément à décharge suffisant. Nous sommes, conclut le procureur, 10 ans après des faits certes particulièrement graves, c'est un élément à prendre en compte et s'il retient la culpabilité de tous, il ne requiert pas de prison ferme mais des peines qui couvrent la détention provisoire effectuée par Île-d'Une-Lévy et Julien Coupa.
Et place maintenant aux plaidoiries de la défense jusqu'à demain, jugement attendu le 12 avril prochain. Par solidarité avec la Grande-Bretagne dans l'affaire Skripal, la France a décidé d'expulser 4 diplomates russes qui sont ces 4 officiels qui devront quitter l'Hexagone d'ici lundi. Quelles étaient leurs activités et sur quelle base les autorités françaises ont-elles ciblé ces 4 personnes? Élément de réponse avec Olivier Poujade.
Leur activité a visiblement dépassé le cadre de leur fonction au sein du corps diplomatique, nous confie une source au Quai d'Orsay. 4 diplomates, 4 pièces gênantes sur l'échiquier du contre-espionnage. La volonté politique politique de soutenir la Grande-Bretagne a donc ouvert la voie pour s'en débarrasser, mais toujours en respectant quelques principes, notamment celui de la réciprocité. Un innervant de type militaire a été utilisé dans l'affaire Skripal. Les quatre diplomates ciblés en France auraient donc un lien avec le GRU, la Direction Générale du Renseignement Militaire Russe, que nous présente Alain Chouet, ancien officier du renseignement français.
C'est un service qui a toujours été extrêmement actif, notamment pendant la guerre froide, en essayant de se trouver des sources dans les structures qu'il estime utiles dans les pays où il est implanté, soit en achetant des agents locaux, soit en les compromettant, de façon à ce qu'ils lui livrent les secrets dont ils ont besoin.
Et c'est précisément ce que l'on reproche à nos quatre expulsés de la semaine, l'attaché de défense à l'ambassade de Russie, un membre du consulat à Marseille, le consul russe à Strasbourg, où sont concentrées de nombreuses instances européennes, un hub d'information considérable, observe un ancien ambassadeur français, et enfin le chef de la mission économique. Celui-ci, il n'y a qu'à le regarder, il a vraiment la tête de l'emploi, conclut notre ancien diplomate de haut rang.
Il tente toujours de se relever de l'affaire Cambridge Analytica, du nom de cette société britannique accusée d'avoir manipulé des données personnelles sur le réseau social pour influencer la présidentielle américaine en faveur de Donald Trump. Le groupe Facebook, qui revendique 2 milliards d'usagers, a promis hier de prendre des mesures supplémentaires pour mieux protéger les données personnelles donc de ses utilisateurs. Mais les dispositions qui étaient déjà largement prévues avant le scandale Cambridge Analytica ont suscité un certain scepticisme. Difficile donc pour Facebook de redorer son image bien mise à mal ces derniers jours, Grégory Philips.
À Wall Street, l'action Facebook ne cesse de dégringoler. Et plus inquiétant peut-être encore pour le réseau social, sa réputation s'est considérablement ternie. En moins de 6 mois, le nombre d'Américains qui ont une image positive de Facebook a chuté. Le sondage a été réalisé juste après le scandale Cambridge Analytica. Dans le même temps, la Commission fédérale américaine du commerce a confirmé l'ouverture d'une enquête sur ce vol de données personnelles. Zuckerberg en personne devrait être auditionné le mois prochain par le Congrès américain, sans doute autour du 10 avril, le PDG de Facebook a, selon plusieurs médias ici, choisi d'aller s'expliquer et se défendre devant les sénateurs et représentants. Zuckerberg et Facebook sont donc engagés dans une véritable bataille pour regagner la confiance du public, alors que de ce côté-ci de l'Atlantique commence à grandir un phénomène, celui d'utilisateurs qui suppriment toutes les informations personnelles présentes sur leur compte avant de se désinscrire complètement.
Grégory Philips à Washington pour France Culture. Et faut-il supprimer son compte Facebook? C'est le thème de notre chronique interactive de cette semaine. Hashtag Je quitte Facebook à retrouver demain matin dans le journal de 7h30. Vos témoignages déjà attendus sur les réseaux sociaux, sur Twitter notamment. Hashtag Je quitte Facebook, point d'interrogation. Et nous vous en parlions hier dans ce journal. La société britannique Cambridge Analytica qui est accusée d'avoir récupéré à leur insu les données personnelles de millions d'utilisateurs de Facebook dans la campagne pour le Brexit. La sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne est prévue dans un an, jour pour jour, mais les négociations s'enlisent. Vous l'entendrez dans le journal de 7h30.